Service Sécurité, épisode spécial. Je suis accompagné de Samuel et Catherine. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Moi d'abord.
Okay. Femme en premier. Est-ce que vous hésitez?
Donc, Catherine, bonjour. Je suis quelqu'un à la base qui a un bac en communication puis qui a fait un drôle de cheminement pour me ramasser en cybersécurité. Tout d'abord, en travaillant en sensibilisation à Radio-Canada, où est-ce que j'intervenais auprès des journalistes, entre autres, là, qui partaient des fois dans des zones hostiles, des fois dans des zones locales pour se protéger. Puis, éventuellement, j'ai commencé à m'impliquer un peu ici et là dans différents projets en cybersécurité. J'ai co-écrit un livre avec Sam, d'ailleurs, qui s'appelle « On vous trompe ». On a participé sur des podcasts, puis éventuellement, on a atterri sur le projet qui est Cybercitoyen, qu'on va présenter après que j'ai passé la parole à Sam.
Ben c'est ça. Ben moi aussi, j'ai un chemin tortueux là, vers la sécurité de l'information. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été médecin de famille pendant une dizaine d'années. J'ai à un moment donné eu besoin d'un grand changement dans ma vie. Et donc, c'est ça. J'ai défroqué. Puis, je suis retourné aux études. J'ai fait un DEC en technique informatique. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment triper sur la sécurité de l'information. Je faisais des CTF pour le fun, tout seul chez nous. Puis, ça m'a tranquillement mené vers le journalisme. Donc, c'est ça, ce qui paye le loyer en ce moment, c'est ma job de journaliste. Je travaille pour un petit média indépendant qui s'appelle Pivot, principalement de l'enquête. Et dans mes temps libres, j'avais commencé à m'impliquer avec Crypto-Québec après avoir fait une entrevue avec un des membres. Et... de fil en aiguille, ça, j'ai rencontré Catherine, puis c'est ça qui nous a finalement lancé dans cette nouvelle aventure.
C'est très intéressant. Un, vous avez des parcours non standards, et c'est d'ailleurs ce qui est remarquable et ce qui nous manque en cybersécurité, d'ailleurs, de ces parcours non standards, parce que de là émanent les meilleures idées. Et d'ailleurs, ça l'a amené justement au fait que vous avez fondé Cybercitoyen, dans lequel je vais vous laisser me présenter.
Mais Cybercitoyen, c'est une association, en fait, qui se veut... qui a pour objectif de partager la sensibilisation à la cybersécurité de façon très grand public. Oui, pour financer nos activités, on va faire des activités auprès des entreprises, par exemple, ou des PME, des OSBL, pour leur fournir des formations, mais on se concentre beaucoup sur créer du contenu grand public, donc via le balado, entre autres, qui est un de nos projets principaux en ce moment. On crée aussi du matériel, des infographies, on intervient auprès aussi de victimes de fraude ou de violences technologiques. On a des partenariats avec des cliniques de cybercriminalité, entre autres. On a un partenariat également avec un bureau d'avocats qui est spécialisé dans la violence conjugale, puis qui nous transfère justement les contacts de certaines personnes qui ont besoin de support pour sécuriser leur compte, leur plateforme après un incident de sécurité, disons, impliquant leur ex-partenaire. Et puis, à travers ça, on a vu quelques participations de médias, entre autres. On donne des conférences beaucoup. Bref, c'est beaucoup de petites activités qu'on fait, mais l'objectif principal, c'est justement de parler de cybersécurité, de vulgariser ça, puis de rendre ça accessible à tout le monde.
Très intéressant et très pertinent, là, la société dans laquelle on est. J'aime bien J'aime bien qu'il y ait une réponse à la violence conjugale avec les moyens numériques. J'aime pas qu'il l'ait, ça existe, mais vraiment qu'il y ait une capacité de réponse parce que les gens sont effectivement très démunis par rapport à ce genre de choses-là. Mm-hmm. Je trouve que le balado est un beau médium parce que je l'aime aussi également, ce médium-là, pour véhiculer de l'information et puis partager avec le plus de gens. Je trouve aussi très intéressant vos différentes autres facettes, là. Vous faites des séminaires, comment vous accompagnez ces choses-là. J'aimerais ça avoir un peu plus d'informations sur à quoi ça ressemble ces séminaires-là, qu'est-ce que vous faites au PME, comment vous les aidez justement à cheminer parce qu'il y a un but de progression là, à travers ça.
Mais ça, je disais qu'on a c'est assez large dans le sens que c'est un peu à la carte. Là, fait qu'on on a aidé les gens de différentes façons. Tu sais, ça peut aller de... J'ai donné des formations, par exemple, à des étudiants en journalisme sur un peu se sécuriser quand tu fais de la recherche, juste des notions un peu de base. Là, utiliser un gestionnaire de mots de passe, des phrases de passe, l'authentification multiple facteur, mais aussi des trucs que, tu sais, je suis honnêtement... Ben peut-être parce que justement, j'ai un peu baigné un peu dans le milieu de l'OSINT puis la cybersécurité, c'était comme un peu naturel que tu faisais pas de la recherche sur Facebook avec ton propre compte. Tu sais, ça me semblait naturel, mais je réalise que c'est pas si naturel que ça. Puis des fois, on a des journalistes qui nous disent « Comment est-ce qu'il a fait pour me rappeler? » Puis je suis comme « Ben, c'est parce que tout d'un coup, t'étais comme dans sa suggestion d'amis, le méchant sur lequel t'enquêtais. » Donc, c'est ça. Fait qu'on fait ce genre de choses-là. Récemment, c'est ça, on est approché par le centre de centre collégial de transfert technologique pour donner des formations à des PME que eux accompagnaient. Donc là, c'est vraiment un peu sur la base là, loi 25, là, un sujet qui revient régulièrement à Polysécur aussi, puis que je pense c'est ça. Là. Fait qu'un peu expliquer c'est quoi les différentes les requis. T'sais, on n'est pas des avocats, fait qu'on n'est pas là pour expliquer vraiment le détail ou comme l'application, mais au moins expliquer comme les grandes lignes, puis ce qui est attendu, puis comme soit ça va aider les entreprises à savoir au moins où commencer là, à se conformer. Puis aussi du certains, une des dernières informations que j'ai données, c'était sur la sécurité en télétravail, fait qu'un peu segmenter son réseau à la maison, comment ça, pas nécessairement garder tes objets connectés sur le même réseau que tes données secrètes là, que tu veux pas. C'est ça, là, fait que, c'est assez large. Là, puis...
Souvent, ça va avec les requêtes qui rentrent. Je me rappelle, par exemple, le cas d'un organisme que ça se donnait que c'était quelqu'un qui écoutait notre balado, puis qui s'est rendu compte que les mots de passe d'où est-ce qu'elle travaillait étaient tous dans un Google Doc en mode n'importe qui avec le lien. Puis elle avait besoin d'aller... en fait, ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait convaincre ses boss que c'était important d'aller investir dans la cybersécurité. Fait qu'elle nous avait demandé si on pouvait venir faire une conférence dans un mode Lunch and Learn, par exemple, juste pour faire peur, en fait, au patron, puis les motiver à aller chercher justement les subventions nécessaires pour pouvoir sécuriser correctement justement les données de cet organisme-là. Fait que ça, c'est ce genre de choses-là, des fois aussi, qui rentrent un peu là, ad hoc, mais qu'on aime faire aussi.
Ouais, c'est très intéressant et d'autant plus pertinent là de faire peur aux gens.
Mais genre gentiment, là, juste comme...
Oui, ben, c'est parce que ça a été longtemps, les professionnels l'ont longtemps utilisé cette technique-là en entreprise et ça n'a jamais eu, pas nécessairement eu des résultats très probants parce qu'à force de crier au loup, comme le loup ne se présente jamais, ben, les gens n'y croient plus. Donc, on vit un peu, les professionnels en cyber, un peu ce désastre-là qu'on a créé nous-mêmes d'avoir trop crié au loup, mais d'avoir effectivement déveillé cette saine peur-là, parce que les gens n'ont peut-être pas suffisamment préoccupé par ce qui se passe. Moi, je préfère la préoccupation plus que la peur elle-même, ouais. Parce que, mais ils ne sont pas suffisamment préoccupés sur les impacts. Puis c'est ça où beaucoup les gens ne mesurent pas. Puis de ce que je peux constater, vous abordez quand même assez largement les impacts des gestes qui sont faits. Là, j'aime bien le fait que les gens sont étonnés qu'ils sont capables de retracer jusqu'à la personne qui regardait sur leur profil Facebook, par exemple. Mais quand on sait que Facebook va suggérer qui nous a regardé, ben, on comprend qui nous a regardé récemment ou dernièrement. Donc, c'est toujours un peu étonnant. Moi, je trouve ça toujours très drôle de voir les personnes qui apparaissent dans mes suggestions parce que c'est des gens qui... Bref, c'est comme ça.
Non, effectivement. Puis, tu as raison sur le fait que, tu sais, je disais, on va faire peur, mais je pense qu'il y a comme une balance à aller chercher entre il ne faut pas non plus faire tellement peur que les gens sont découragés puis qu'ils se disent, ben, il n'y a rien à faire de toute façon, versus juste comme, ah, tu sais, il y a cette possibilité-là que tel scénario réaliste arrive, puis il faut que je prenne des actions concrètes pour m'en protéger, mais que ça reste quand même abordé d'une façon où est-ce que la personne se sent empowered de pouvoir faire quelque chose non plus. On ne peut pas juste que les gens tremblent par terre en petite boule parce qu'ils sont découragés de les impacts de la cybersécurité non plus. Là.
Ah non, absolument pas. C'est important qu'ils soient capables de justement de sentir qu'ils ont une influence sur leur environnement. C'est aussi ça qui manque beaucoup dans ce que je peux constater dans mon entourage élargi de gens qui sont pas dans le cyber, qui, un, ne savent pas, sont pas préoccupés correctement. Ils savent pas quoi faire non plus. Ils savent pas comment ils peuvent avoir une influence positive sur leur environnement de cybersécurité, justement, pour éviter de tomber dans des pièges. C'est très intéressant d'amener ça, ce contact-là plus grand. Puis là, le défi, puis je vais être un balado, c'est une chose, mais la portée de ce que vous êtes capable de faire, parce que dans le fond, l'objectif, c'est de rejoindre le plus grand nombre. Comment vous faites pour réussir à justement porter le message à faire qu'ils vous découvrent?
Je pense qu'on a été relativement chanceux, opportunistes sur certains trucs qui sont arrivés dans les dernières mois. On a eu quand même une couple d'opportunités par rapport à certains médias quand même grand public, entre autres avec JE. Je pense que ça l'aide que, tu sais, Sam et moi, on a quand même des contacts dans les médias. J'ai travaillé chez Radio-Can, Sam est journaliste. Fait qu'on est quand même un peu dans cet écosystème-là. Puis ça fait qu'on est quand les journalistes, entre autres, ont des questions ou ont besoin d'aller chercher quelqu'un pour vulgariser ou dans le cas de GIA, par exemple, pour soutenir dans une enquête, ben, nos noms apparaissent. Donc, on peut utiliser ces opportunités-là pour faire parler de cybercitoyens puis, justement, agrandir la portée du message. Fait qu'il y a cette opportunité-là, mais tu sais, à la base, je pense que c'est juste du marketing. Là, au final, c'est de faire de la relation publique, c'est de faire des marketing, c'est de faire de la conférence, puis éventuellement faire grandir ce projet-là organiquement aussi, parce qu'on veut pas non plus le faire de 0 à 100 puis pas être préparé non plus, parce que ça vient avec des demandes, justement, cette portée-là. Plus qu'on a de la portée, plus qu'il y a des courriels qui rentrent dans notre boîte courriel de gens qui ben, ils se sont fait trop en ligne, ils ont des questions, ils ont besoin d'aide, puis on n'aurait pas nécessairement les ressources si on grandit trop vite. Fait que lentement, mais sûrement, je pense que c'est la stratégie là, pour justement aller pousser le message, pousser la sensibilisation, sans non plus là, se retrouver complètement inondé.
Voilà, je comprends. Puis de toute façon, si vous avez un objectif grand public, puis c'est une des cibles les plus difficiles à atteindre parce que les gens ne sont justement pas suffisamment préoccupés. Je suis très content d'apprendre que vous contribuez justement aux médias traditionnels, justement parce que ça, probablement ça change des gens qui incitent la peur et s'énervent facilement dans les médias et qui incitent, qui envoient un message qui, à mon sens, est négatif, qui ne représente pas les bonnes choses. Avoir venu un message de plus positif et plus bienveillant justement qui nous amène ailleurs. Tu mentionnais le fait justement, ils vous sollicitent. Qu'est-ce que ça représente, comment c'est et comment vous les accompagnez c'est de cette sollicitation-là? À quoi les gens peuvent s'attendre quand ils vont vous solliciter? Comment vous les aiguillez? Comment vous les aidez à se sortir d'une situation périlleuse?
Tu sais, par exemple, mettons qu'on se fait contacter par quelqu'un, ça peut être parfois quelqu'un qui est pas sûr qu'elle s'est fait frauder, mais elle pense que oui, personne ne demande, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Fait que généralement, on a des checklists, par exemple, où est-ce que, OK, tu sais, voici comment sécuriser tes comptes, voici quoi aller regarder. Dans le cas, par exemple, de la violence conjugale, on a une checklist de déconnexion avec son ex-partenaire. Fait que tous les comptes qu'on pense pas nécessairement, par exemple, DoorDash, comme, hey, est-ce que comme ton ex peut encore traquer ou est-ce que tu envoies ta nourriture si vous partagez un compte, par exemple? Puis vraiment des listes puis des outils pour aller, en fond, protéger-la, mettre un nouveau mot de passe, mettre l'authentification plusieurs facteurs, etc., etc. Expliquer comment ça fonctionne, par exemple, là, iCloud pour protéger. Dans le cas des fraudes, ça va être d'aiguiller vers des ressources. Par exemple, la CAVAC, dans le cas, justement, où est-ce qu'il y a eu des gros montants, puis là, il y a besoin de support ou parfois d'accompagnement aussi psychologique parce que souvent, tu sais, quand on est victime de fraude amoureuse ou de fraude d'investissement, il y a quand même là, un impact au niveau psychologique pour la victime. Fait que ça veut beaucoup, en fait, être de retrouver des ressources, de valider aussi des fois, ben comme, tu sais, oui, effectivement, tu sais, je suis vraiment désolée de t'apprendre que c'est effectivement une fraude, ça regarde pas bien, OK, voici quoi faire maintenant. Fait que c'est beaucoup dans cette optique-là qu'on fait l'accompagnement auprès, justement, là, des individus qui nous contactent.
Très intéressant et très pertinent. J'aime ça l'idée des checklists justement pour aider les gens à décrocher rapidement. Effectivement, c'était mentionné sur iCloud plus récemment, il y a des moyens rapides pour débrancher. Là, Apple s'est un peu réveillé un peu tard, mais se réveille tranquillement à ces effets de barre-là que ces outils de partage-là. Donc, ils donnent des facilités. Je m'y connais moi Android, fait je ne sais pas si ces mêmes facilités-là sont aussi faciles à mettre en œuvre ou si ça ou si le checklist va être plus complet à ce moment-là pour compenser. Mais j'aime bien l'idée du DoorDash, tous ces comptes-là partagés qu'on utilise par réflexe. Je n'aurais jamais pensé à ça et j'ai même l'impression que les gens autour de moi non plus n'auraient pas pensé à ces éléments-là. DoorDash, et c'est le plus bel exemple que je peux avoir justement qu'on est capable de traquer ou Uber ou peu importe la chose qui fait qui nous permettent indirectement de tracer ce qu'on fait exactement, comment on bouge. Puis justement, dans le cas de violence conjugale, ben ça peut devenir un changement entre avoir la paix d'esprit et être complètement sur ses gardes constamment, ne pas être capable de se reposer, de s'apaiser un peu d'une situation qui est malheureuse puis qui est pas agréable. Je trouve ça très chouette, mais puis d'ailleurs, j'encourage les gens qui sont dans des situations malheureuses justement de pouvoir vous solliciter pour accéder à ces ressources-là justement pour les aider. Vous aviez mentionné que vous avez fait un livre. Qu'est-ce qu'il couvre et quel est le public de ce livre-là?
Ben, c'est ça, le livre, c'est un livre grand public, là. Ça, c'est vraiment un livre vulgarisé là, qui couvre la désinformation au sens large. Donc, on couvre un peu, tu sais, c'est quoi la désinformation? Puis on couvre autant que ce soit, par exemple, des campagnes étatiques c'est ça, là, dans des objectifs le plus géopolitiques, que ce soit de la fraude en ligne, de tout ça. Puis c'est ça, c'est vraiment, c'est ça, fait que ça couvre assez large. Puis on aussi, comme le chapitre auquel moi j'ai contribué, c'est celui sur la vérification aussi de l'information. C'est quoi les certains outils que tu peux faire pour vérifier tes sources? Tu sais, c'est quoi la différence? Puis on y va des fois des choses très simples, comme c'est quoi la différence entre un éditorial puis un article journalistique? Là, ça n'a pas le même standard. C'est quoi la différence entre les différents... Une étude randomisée double insu, c'est pas la même affaire qu'un case report, là, une anecdote de raconter. Fait un peu pour donner quelques outils aux gens pour un peu comprendre là, la différence entre les différentes sources d'information.
Puis sinon, c'est sûr qu'on explique aussi les mécanismes de pourquoi ça fonctionne la désinformation. On explorait aussi le concept de ben, QAnon, pourquoi c'est devenu aussi populaire, comment est-ce que QAnon applique, par exemple, les principes de la gamification, ludification, je pense en bon français, pour justement rendre les gens accros à ce genre de plateforme-là. Puis c'est ce qui fait que les gens se radicalisent rapidement. Puis ça devient très difficile de sortir les gens de ces terriers de lapins blancs-là, si on veut. Le dernier chapitre, qui était le fun aussi, portait sur la fraude en général, donc les autres arnaques en ligne, les autres attrapes. Se basant sur le principe que la désinformation, en fait, c'est de l'ingénierie sociale, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes tactiques psychologiques qui sont utilisées pour te faire cliquer sur un lien de phishing que pour te faire cliquer sur un clickbait d'une fausse nouvelle. C'est les mêmes principes. Donc, basé sur ce cheminement-là, on a adressé après les différents types de fraudes en ligne qui sont très communes, puis les grandes lignes. Je pense que c'est un livre qui est le fun. Je pense qu'on l'écrit de façon là, pour que ce soit extrêmement accessible. Moi, je sais que quand j'écrivais mes chapitres, je pensais à « est-ce que ma mère va comprendre ce que je suis en train de radoter en ce moment? » Puis, tu sais, je pense que c'est un peu la ligne éditoriale, justement, qu'on voulait, c'est que tout le monde puisse comprendre. Mais je pense qu'il est écrit aussi d'une façon, du moins, à moi que mes amis m'aiment aussi, mais que même les gens qui sont dans le domaine trouvaient qu'il y avait quelque chose d'intéressant à apprendre aussi. Parce que c'est il y a quand même un gros aspect très psychologique, très littératie médiatique. Qu'on aborde peut-être un peu moins souvent en cybersécurité parce qu'on parle plus de littératie numérique en tant que tel.
Ouais, puis en cyber, on a chacun nos champs d'expertise, puis ça, c'est une erreur de beaucoup de professionnels en cyber de croire que de leur petit champ d'expertise, ils sont capables d'extrapoler plus loin. J'aimais bien comme ça, tu as dit, ben, loi 25, vous n'êtes pas des avocats, mais vous êtes capable de donner un point de démarrage, mais vous le dites quand même que vous êtes ça. Et je vois très peu cet élément-là ou cette franchise-là ou honnêteté-là des professionnels en cyber de dire justement, non, moi, mon champ d'expertise est là. À la limite de celui-ci, je peux donner un coup de main, mais il est limité et dirigé vers la bonne personne. Enfin, je trouve ça très important. Je suis pas mal sûr que la plupart des gens en cyber n'ont pas ce degré de connaissance de la désinformation, les mécanismes qui s'en vont en arrière de ça et tout ce qui s'en suit. Fait que c'est très important. Fait que même moi, je vais lire le livre et j'aime bien le fait de référence que ta mère étant celle qui serait capable de comprendre. C'est exactement comme ça que j'aborde mes choses en général. Si je suis capable d'expliquer à mes parents, c'est que j'ai réussi à communiquer mon message correctement à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Puis malheureusement, il y a tellement peu de gens qui l'abordent de cette façon-là que je trouve ça un peu triste. Mais votre livre, ça, c'est sûr que je vais le lire. J'ai pas eu l'occasion encore, mais celui-ci est dans ma pile des 350 livres que j'ai dans ma file d'attente. Je vais donner une plus grande priorité sur celui-là parce que il y a un aspect concret à celui-ci qui est très pertinent. D'autres éléments au niveau du livre qui sont, là, du fait que là, j'ai fait un très long éditorial sur ça, qui est justement un éditorial qui est un mot d'opinion, qui n'est pas journalistique, si on veut vraiment rester dans les termes.
Mais juste peut-être pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même assez, c'est pas facile de vulgariser. On dirait, je pense que plus quelqu'un est expert dans un sujet, plus c'est difficile de vulgariser. Aussi parce que tu conçois que ton explication simplifiée, ben, il y a là, tu commences à penser à plein de choses qui sont pas vraies dans ton explication simplifiée. Tu dis, oui, mais OK, j'y explique ça, simple, mais il y a X, Y. Donc, je pense que le plus qu'on devient spécialiste, ça devient aussi un peu difficile des fois de vulgariser puis d'accepter que, OK, j'ai peut-être pas couvert le champ de A à Z dans mon explication, mais je l'explique quand même assez pour que la personne ait une compréhension. Mais c'est ça. Je pense qu'on essaye quand même le plus possible de garder l'équilibre là, entre vulgariser, expliquer simplement sans trop en laisser passer.
Ben, ou... c'est, C'est plus facile dans un livre de vulgariser que dans deux minutes à un journaliste. Ça, on en convient. Ouais. Ça, c'est le sublime souffrance de l'expert de devoir espèce de réussir d'encapsuler la complexité d'un domaine dans deux minutes à un journaliste pour une question pointue et que sachant qu'il va prendre le bout qui l'intéresse le plus et probablement pas le bout de contexte que pour nous est très important à donner, là.
Les métaphores sorties hors du contexte, c'est définitivement une expérience qu'on a eue. On est comme, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais OK. Yep. Mais oui, mais ça, je pense que c'est un des avantages que personnellement, je trouve que mon background en marketing a pu se traduire quand même, là, compétences transversales, c'est de justement toujours penser les conseils de sécurité comme étant un produit. Fait qu'au lieu de vendre, mettons, une boîte de céréales, j'essaie de vendre un comportement à adopter. Puis en le positionnant comme ça, je pense que ça devient intéressant de justement pour adapter justement la vulgarisation, rendre ça plus simple. Il faut que ça soit catchy, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit mis dans une histoire généralement pour que les gens justement l'encodent. Il faut qu'il y ait le pourquoi, parce que les gens n'aiment pas se faire dire quoi faire s'ils comprennent pas pourquoi à la base. Mais tu sais, je pense que si on arrive à justement le raconter en histoire, en fait, la cybersécurité puis les comportements, puis vendre ça comme si on vendait un slogan ou un produit quelconque, je pense que c'est la clé pour faire de la sensibilisation qui est efficace.
Oui, effectivement. Puis je vais apprendre ce que j'ai dit au B-Side il y a deux semaines, au moment qu'on enregistre, une semaine, deux semaines. Justement, un des problèmes avec les gens en cyber, c'est qu'on parle aux gens comme des dentistes. C'est-à-dire qu'essentiellement, on est condescendant. On explique aux gens qui ne savent pas comment se brosser les dents. Même si on s'est brossé les dents toute notre vie, on se fait encore expliquer par le dentiste qu'il faudrait passer à son dentaire genre 6 fois par jour puis se brosser les doigts 20 fois par jour. Puis je suis même pas convaincu que les dentistes font vraiment ça, mais ils nous poussent constamment ce discours-là. Et c'est inévitable quand on va chez le dentiste. On a tous cette expérience commune qui est cette zone et justement où on a un problème de communication qui est essentiellement qu'on peut réduire à, c'est de la condescendance, tu le fais, tu sais pas, donc t'es mauvais, donc voici, au lieu d'être quelqu'un qui accompagne l'humain qui est en arrière, au lieu de dire que tu devrais te passer la soie dentaire 6 fois par jour, mais au moins une fois par semaine, ça pourrait être un bon pas en avant. C'est une meilleure méthode de communication, disons, si on prend l'exemple du dentiste, que ça. Et en cyber, on fait la même chose quand on va parler des mots de passe, quand on va parler de gestion des mots de passe, quand on parle de ces choses-là. On traite les gens comme des insignifiants, comme des ignorants. Puis moi, je trouve ça juste terrible là, de pouvoir faire ça. Fait justement, j'aime beaucoup cette approche plus humaine. Marketing, j'avais jamais vu cet angle-là, mais plus humaine minimalement. Là.
Effectivement, tu sais, je pense que c'est au lieu d'être dans la connaissance, d'être dans l'empathie, en fait, puis de justement considérer la personne, puis qu'est-ce qui est réaliste également là, pour en dehors des meilleures pratiques obligatoires que je suis pas certaine que même nous, en tant qu'experts, on fait à 100%. T'sais, qu'est-ce qui est réaliste pour la personne puis qui va déjà être un point d'amélioration, effectivement, tu as raison.
Oui, puis je vais me faire lancer des tomates par les experts en cyber, mais on est probablement les pires à faire du SecOps, c'est-à-dire qu'on a notre propre vie numérique est probablement une des moins bien protégées parce qu'on se pense plus meilleur tant que tu as une mauvaise expression dans laquelle on va négliger des éléments comme ça dans la même lignée que l'expression du cordonnier mal chaussé. J'en connais beaucoup qui vont recommander ou agir de façon qui est non cohérente par rapport à ce qu'on va recommander, soit justement un peu comme le dentiste qui, je suis pas sûr qu'il se brosse les dents 20 fois par jour. Dans la même lignée, ben on dit ouais, mais des mots de passe de 20 caractères là, qui ne font aucun sens dans le réel des gens et qui les amènent justement à l'empathie de comprendre puis toujours d'amener à la situation. Pour un peu reprendre l'exemple de comment on amène la communication dans deux minutes, même si c'est imparfait, puis ça, c'est les experts devront travailler là-dessus. C'est faut juste qu'on sache à qui on s'adresse. Et l'imperfection, elle n'est pas grave dans la mesure où elle s'adresse à un public défini. Et non à nos pères. Et ça, on a énormément peur, j'ai l'impression, en cyber, de se faire juger par nos pères comme quoi on a dit des faussetés ou des choses qui ne sont pas vraies. Donc, de passer par-dessus nos peurs est un exercice assez difficile, je dirais.
Oui, mais je suis pas de... pour faire... Dans mon ancienne vie, tu sais, je travaillais beaucoup en réduction des méfaits. Fait que c'est sûr qu'on sait que certaines pratiques ou certains modes de vie qui sont peut-être meilleurs pour ta santé, mais souvent de dire à quelqu'un, OK, tu bois une caisse de 12 par jour, ben écoute, on va passer un six-pack, là, tu sais, on va commencer par ça, là, puis, OK, tu shootes à l'héroïne, d'accord, mais tu sais, on va essayer de passer à méthadone, tu sais, puis en tout cas, fait que, c'est ça, je pense qu'on peut faire la même affaire en cybersécurité, là, de diminuer le risque, puis c'est ça. De toute façon, si on met trop de barrières, les gens, ils trouvent des façons de les contourner, là, parce qu'on est déjà tout ça.
Ça, ils se découragent, puis ils font le contraire, parce que ça sert à rien, c'est trop compliqué. Qui, comme je pense, un des enjeux, on garoche plein de conseils, puis c'est overwhelming, puis les gens sont juste là, c'est trop compliqué, j'abandonne.
Ouais, ben, petite bouchée, c'est toujours très important, justement. On revient un peu sur des sujets qui ont déjà été couverts, sur justement, ces checklists-là désamorcent un peu la complexité, comment c'est pas si compliqué, puis justement, on a quelque chose qui est facile de nous aider à cheminer à travers ça. Je vais basculer à votre dernier grand morceau qui est votre podcast que vous avez démarré en mars dernier, si je me trompe pas, qui est très intéressant, qui aborde un peu d'actualité, mais aussi des bons conseils. J'aime ça que vous en parliez un peu de qu'est-ce qu'il est maintenant et où vous allez l'amener justement, parce qu'on en a eu quelques discussions à ce sujet-là il y a pas si longtemps.
Je pense qu'on
cherche. C'est ton bébé, le podcast, ça me va dire.
T'sais, je pense, pour être honnête, on se cherche encore un peu. On expérimente différentes affaires. Quand on s'était rencontrés dans le podcast de Crypto Québec, il y avait un format qu'eux avaient déjà fait depuis des années, qui était très revu d'actualité. Donc, on en fait encore de ça, même si personnellement, j'aime ça m'éloigner de ça. C'est intéressant de le faire de temps en temps, mais c'est tough, t'es tout le temps à jour, puis tu l'enregistres, puis au moment que tu fais le montage, tu dis « Ah, je suis déjà en retard », puis là, deux jours plus tard, tu publies, puis tu dis « Ben, c'est déjà passé date parce qu'il s'est passé comme 15 affaires depuis. » Mais en tout cas, je pense que c'est quand même intéressant parce que des fois, il y a des histoires qui valent la peine d'être racontées, puis de revenir sur ces sujets-là. On a fait quelques entrevues plus long form, excusez l'anglicisme, tu sais, pour jaser un peu. Moi, ça me fascine quand même de voir tous les différents profils qu'il y a en sécurité de l'information et en cybersécurité. Fait que, tu sais, d'interviewer quelqu'un qui était dans la scène hacker, quelqu'un qui fait du threat hunting en français, là, de la recherche de menaces.
Chasse de menaces.
Tu sais, Steve Waterhouse, son expérience pendant la crise du verglas. Tu sais, juste de voir un peu c'est quoi tout cet univers-là puis qu'est-ce que tu peux faire là-dedans. Personnellement, c'est fascinant. Fait que si je peux en jaser avec du monde, puis c'est ça. Fait que je peux, Catherine, ce que tu...
On a fait aussi des trucs plus thématiques. Par exemple, ouais, le dernier épisode qui était justement sur les logiciels espions, donc là où est-ce qu'on aborde un peu plus en mode long form, OK, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est sûr qu'on prépare ces émissions-là, on est en tête certains publics qui nous contactent, donc on leur prépare du contenu en même temps. Un des épisodes futurs qu'on veut faire, c'est de parler de nos enquêtes qu'on avait faites pour GIE, entre autres, qu'il fallait attendre que les émissions soient diffusées pour en parler officiellement. Fait qu'on va pouvoir justement jaser de ces trucs-là. Je pense qu'y aller plus en mode... Moi, personnellement, j'ai l'impression que si on ferait tout le temps la même chose, on s'ennuierait éventuellement. Fait que c'est le fun de pouvoir un peu le piger à gauche, à droite sur les projets... puis de justement se réunir aux deux semaines puis jaser de trucs intéressants en cybersécurité.
Ouais.
Tout à fait. Ben, c'est pour ça que je l'écoute d'ailleurs, parce que vous êtes touché à des sujets qui, normalement, moi, sont un peu en marge de mon domaine d'expertise, parce que je m'intéresse de façon large à tous les domaines sans être un expert dans tous ceux-ci. Justement, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai l'eau à la bouche à savoir que vous allez parler justement de ce que vous avez fait avec l'enquête à GIE. C'est le genre de choses qui, c'est comme le making-of de choses qui, pour moi, sont complètement abstraits, que je ne connais pas. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens aussi comme ça dans le domaine n'ont pas accès à ce genre d'informations-là, de façon de fonctionner. C'est super intéressant. Puis justement, ça devient aussi un élément de référence au-delà de l'actualité. Puis pour le temps que je fais du podcast, effectivement, je me suis, avec le temps, éloigné de l'actualité parce que c'est une pression à la livraison qui est désagréable dans le format dans lequel je fonctionne, puis clairement dans le vôtre aussi. Donc, c'est je comprends très bien, même si c'est toujours des fois intéressant d'y toucher, là, ce genre de choses-là. Mais effectivement, comme vous autres, je m'en suis éloigné de ces éléments-là pour, pour ne pas avoir à courir après moi-même pour livrer puis me sentir mal parce que j'ai pas livré puis ainsi de suite. Là. C'est ça, on parle le plus des, justement le making of de podcast en arrière. C'est tout comment il faut livrer. On a les dates, on a des dates de tombée puis des différents éléments. Puis faut pas que la nouvelle soit périmée quand on va la mettre sous presse.
Non, mais je pense que
un certain travail aussi de montage. Je sais que ça me dit un peu plus à cheval que je suis sur le montage. Donc effectivement, c'est une pression très grande sur le travail. Puis j'aime aussi le fait que tu vas narrer par-dessus certains éléments qui sont plus complexes que moi. C'est une approche que j'utilise pas du tout d'ailleurs. Là. Et certains me le reprochent dans certaines circonstances. Je devrais peut-être mâchouiller un peu plus ce qui est discuté, mais je vais plus sur la forme d'une discussion. Puis un peu comme vous autres, vous parlez entre vous deux, c'est une très très intéressant comme style. Là. Je lance des fleurs, puis j'adore vraiment votre podcast.
Ben, merci.
Tu sais, je pense que l'actualité, ce qui est le fun, par contre, c'est que, mais j'assume que Sam aussi, là, mais les deux, vu qu'on, de par nos jobs de jour, on se garde déjà à jour de l'actualité. C'est moi, mon travail de faire une vigie d'actualité, ça fait partie de la chose. Quand j'enseigne à la Polytechnique, puis il y a une partie de mon cours qui est toujours justement revue de l'actualité. Fait que c'est sûr que je pense que cette facilité-là, par contre, au-delà de la rapidité qu'il faut pondre après l'épisode, que ben les recherches ont déjà été faites, on a déjà sélectionné dans nos jobs au quotidien des articles, on a lu les trucs. Fait que c'est facile d'arriver puis de faire comme OK, let's go, voici les trucs que j'ai déjà lus cette semaine de toute façon. Là où mettons les long form que Sam est super bon à faire, mais c'est beaucoup de travail au niveau d'édition, justement, ce voice-over-là que Sam fait. C'est sûr que je pense pas qu'on pourrait fournir un podcast à toutes les deux semaines dans ce format-là, à moins que rapidement on ait des subventions externes ou quoi que ce soit pour supporter le podcast, ce qui est pas prévu dans l'immédiat, disons.
Ouais. C'est ça. Moi, c'est sûr que mon journalisme est moins axé sur la cybersécurité, même si j'essaye de garder un œil sur ce monde-là. Mais ça me fait quand même du bien de me plonger là-dedans puis d'aller lire là-dedans. Tu sais, je le faisais de toute façon pour le fun, fait que là, je le fais pour le balado. Puis ça me fait changement de regarder des vidéos de complotistes puis de néo-nazis. Fait que tu sais, c'est. Ça fait du bien des fois de lire d'autres sujets.
Ça fait du bien d'aller chialer publiquement sur notre podcast contre Elon Musk aussi des fois. Comment qu'il a ruiné Twitter?
Ouais, c'est toujours drôle, les choses de conspi. J'aime bien ça une fois de temps en temps. Là, c'est lourd trop, là, mais un peu, là, vous avez parlé de justement QAnon, c'est tous ces éléments, ces mouvements de conspi-là qui sont très, très drôles en petite dose parce que, mais après ça, ça devient déprimant rapidement parce qu'on constate la détresse des humains qui sont pris dans ces schèmes-là. Et ouais. Ça répond à des éléments de détresse. Ces gens-là se font prendre facilement parce qu'ils sont en détresse. Et bon, ces gens-là, un peu comme le terrorisme d'ailleurs aussi, ces gens-là se font absorber par ces groupes-là parce que ou les sectes et ainsi de suite sont toutes des gens qui sont dans une forme de détresse émotive. Ce qui fait que un peu ça va, mais après on voit juste la misère humaine qui est en arrière de tous ces éléments-là, puis à quel point on est fragile comme une petite bébite, comme petits humains.
Oui, mais c'est sûr que notre cerveau n'est pas nécessairement adapté à la réalité de tout ce que les algorithmes nous poussent à longueur de journée. Puis, tu sais, au final, si on a des facteurs de vulnérabilité, justement, comme tu parlais, la détresse en est un, l'anxiété, la peur, les pressions économiques, l'isolement social, c'est toutes des choses qui peuvent faire qu'on est plus vulnérable, justement, à des messages qui vont venir nous chercher, parce que QAnon, ça offre une communauté aux gens, là, aussi. Fait que c'est sûr que si tu te sens un peu isolé socialement, d'avoir quelqu'un qui arrive et qui t'offre cette belle communauté-là de gens qui vont t'écrire tous les jours, qui vont participer avec toi, vous allez résoudre des puzzles, vous allez avoir l'impression d'être les héros d'une longue histoire hyper comme complexe, etc. Ça va parler à beaucoup de gens, malheureusement. Puis tu sais, oui, c'est sûr que en dehors des blagues de lézard qui contrôlent l'univers, il y a c'est quand même un peu plus comme sombre, en fait, ce qui se passe en arrière-plan, que ce soit la provenance de ces mythes-là, justement, ou justement les gens qui se retrouvent pris là-dedans, puis les conséquences que ça a indivisiblement, puis au niveau sociétal.
Oui, puis on a un drôle, puis autant au niveau des sectes, on a une certaine façon de gérer qui est maintenant institutionnalisée, qu'on est capable d'aider les plus facilement ces gens-là parce qu'on est capable de les détecter. Autant là, au niveau des conspirationnistes, les conspirants ont plus de misère à les détecter et à agir en cohérence comme on le fait avec les gens qui embarquent dans des sectes dans lesquelles on trouve des moyens de les aider à sortir et de rentrer en thérapie. Dans le cas des complotistes, on ne fait pas ça, puis on les laisse comme s'enliser. Souvent, on les abandonne à certains égards parce qu'ils se retrouvent à se faire exclure de leur cercle. Puis on les abandonne, contrairement avec des sectes, par exemple, où on va venir les aider à se sortir à ça. Parce que maintenant, socialement, là, on parle peut-être pas il y a pas 30 ans, mais maintenant, on est mieux adapté à ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu. Moi, je trouve ça très triste. Je change de sujet parce que je trouve ça glauque, un peu comme élément. Puis quand je tombe là-dedans, là, je tombe super. Moi, que ça me déprime pas tant que ça, mais les gens me trouvent très dépressif quand je commence à embarquer sur ce genre de domaine-là, sur cette espèce de tristesse humaine dans laquelle ils nous habitent. Puis pourtant, le monde est si beau, puis il y a tellement de belles choses à faire de nos vies et justement de contribuer, mais pas dans un mouvement de conspi, mais de contribuer socialement par d'autres éléments. C'est d'autres forces que vous faites, en fond, mais tant qu'aborder sur l'action bénévole, c'est un peu ça que vous faites. Comment vous organisez votre action bénévole? Vous avez mentionné que vous avez vos jobs de jour, puis incitamment, moi aussi, j'ai une job de jour qui me finance mon podcast. Fait comment tout ça s'inscrit dans votre réel, parce que c'est pas nécessairement facile là, de coordonner tous ces éléments-là, puis le bénévolat qui est impliqué dans votre initiative.
Bon, shout-out à mon employeur Desjardins qui me permet d'avoir ce temps-là, puis qui sont super compréhensifs quand je leur annonce que je vais prendre une heure de lunch un peu plus longue, que je rattrape mon temps parce que j'ai une conférence ici et là, qui supportent activement les efforts, qui encouragent mes collègues à participer et à venir nous donner un coup de pouce également. Fait que c'est sûr que ça l'aide justement d'avoir ce support-là. Puis j'ai entendu de travailler à la maison parce que, ben, tu sais, comme mon heure de lunch, je peux intervenir, je peux répondre à des gens le matin avant le travail, le soir à 5h pile, tu sais, j'ai pas besoin de prendre le délice pendant une heure et demie de temps. Je peux tout de suite changer d'ordinateur pour aller travailler. Fait que ça l'aide beaucoup. Je pense que c'est un peu la même chose pour Sam là, qui travaille à la maison aussi. Je pense que c'est la façon qui est le plus réaliste de balancer l'implication bénévole. Puis, c'est sûr que tout ça, ça vient avec un certain nombre de coûts, hein, que ce soit les licences. Tu sais, quand on fait des infographies, il faut qu'on achète des images, il faut qu'on achète des trucs. Le matériel, les plateformes d'éditing, tout ça, ça coûte un peu d'argent, c'est là. Puis ça, ben, c'est grâce justement là, aux compagnies privées qui veulent nous faire des conférences. On leur charge un petit montant en fonction de leur budget, puis ben ça nous permet ensuite là, de justement venir rattraper ces coûts-là à ce niveau-là. Fait que l'aide qu'on fournit, elle est gratuite, elle est bénévole, mais le travail auprès des entreprises, celui-là, mettons, on change un petit peu pour justement permettre d'aller chercher les fonds nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Puis c'est sûr que on est toujours à la recherche de gens qui veulent venir nous aider. Des demandes d'aide, ils en rentrent à tous les jours. Je dirais depuis l'émission de GIEC, la première qui a été diffusée justement vendredi dernier, on a reçu quand même quelques courriels. Fait que ça, c'est sûr que si jamais vous entendez le podcast, vous êtes comme « Hey, ça me tente de répondre à des gens, ça me tente d'aider, ça me tente de soutenir les gens, passer à travers des checklists pour les aider à sécuriser », ben ça va nous faire plaisir de vous donner des appels à répondre à l'aide. Mais tu sais, pour moi, je pense que c'est ça. En fait, on arrive parce que la balance travail est possible, simplement.
Ouais. Dans le cas de Sam, tu es un freelance un peu plus, donc c'est un peu plus facile. Étant donné que tu fais du travail de rédaction, mais ça, évidemment, moi, c'est la seule façon que j'ai réussi à faire mes affaires, c'est parce que je suis un freelance aussi. Je suis capable de recomposer mon horaire pour arriver à des éléments plausibles là-dedans. Je vous remercie énormément. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir des actes positifs, bienveillants, qui sont posés par des acteurs de la communauté, qui ont des profils non standards. Puis ça aussi, j'insiste, je le souligne à toutes les personnes que je croise en cyber qui ont des profils non standards, ou dans le fond, ce que j'appelle les transfuges en général, les gens qui arrivent d'un autre domaine puis qui viennent tomber dans la marmite du cyber puis qui viennent nous donner un coup de main et avoir l'air un peu moins coco dans notre communication, dans notre approche, dans nos différentes phases. Donc, c'est très, très apprécié, cette contribution-là et cette contribution bénévole-là aussi. Je vous remercie énormément de votre temps aussi, d'avoir consacré un peu de temps ce soir pour me parler de vos initiatives.
Merci de nous avoir invités.
Merci.